Est-ce que vous voulez que je refasse l'introduction de fête foraine? Pardon.
Mais oui, carrément.
Hey, c'est parti, on y va pour un podcast trans. C'est parti, tous ensemble, let's go!
Ben bonsoir du coup, et bienvenue sur ce nouvel épisode d'un podcast trans. Je suis Mike, donc ça, voilà. Si les dernières fois vous avez entendu Mika, c'est que vous avez mal entendu.
C'est compliqué de se dire que Mika, c'est ton dead name quand même.
C'est pas mon dead name, mais voilà. Mais j'élaborerai tout à l'heure. Et d'accord. Je suis en compagnie de Louis.
Bonsoir. Voilà, ma voix ne ressemble pas à une voix d'animateur de fête foraine tout le temps, donc ça va.
Ah, on a eu chaud.
T'imagines si je parlais comme ça tout le temps, pour quel enfer.
On aurait
je pense que ça nous amuserait bien 10 ou 20 secondes. Puis après, on te baïonnerait, quoi. En mode assurance touriste.
Mais bonsoir, du coup. Et avec nous, il y a aussi Jenna.
Ouais. Et Jenna, c'est moi. J'ai toujours les mêmes voyelles dans mon prénom. Et ma voix n'a pas changé. Non, ma vie est tranquille, là. Ça va. Et on a Séraphin.
Salut. Moi, la dernière fois que vous m'avez entendu, je crois que c'était en juin.
Ouais.
Mais je crois pas que ma voix ait changé pour autant, malgré toute l'envie que j'ai envie que ce soit le cas.
Et les quantités de testostérone que tu t'enfiles.
C'est vrai. Et voilà.
Franchement, ça m'a un moment. Moi, ça a mis genre un an, je pense. Et à un moment donné, j'étais en surdéjà et ça a drop d'un coup. Et voilà. Il y a aussi...
Un an et demi, moi.
Ouais. Et il y a ce truc aussi, à un moment donné, tu as chopé froid et ta voix va plus jamais remonter.
Ah oui, bah c'est déjà arrivé.
Bah voilà.
Mais pas assez.
Moi, j'ai l'impression que la voix de Séraphin, elle a déjà drop il y a un moment.
Ouais.
qui a été vraiment assez spectaculaire. Et maintenant, il y a peut-être du travail supplémentaire, je sais pas.
Je reste toujours Madame Hôtel, quoi.
Ah ouais?
Ouais. Une fois, j'ai le droit, monsieur. Une fois.
Ok.
Mais j'aime pas les appels après, donc c'est peut-être aussi pour ça.
Ouais.
C'est marrant parce que c'est pas
t'as essayé de pas rigoler?
La perception que j'ai.
Mais tu sais que moi aussi j'ai des madames, hein. j'ai des madames.
Oh mais non, te retiens pas de rire en plus. Pardon, vous disiez.
Pardon. Enfin, je disais que moi aussi j'ai des madames au téléphone des fois, mais parce que du coup, genre, j'ai. Enfin, c'est juste que les trucs administratifs, ils s'attendent à avoir, genre, madame, mon nom de famille au téléphone. Mmh. Et du coup, ils sont en mode madame, et je suis en mode oui, bonjour. Et tu sais, mais genre, ça fait le truc de. Du coup, quand j'ai pas envie, genre, des fois, je suis en mode. Attends. Oui, bonjour, ouais. Du coup, c'est bien madame.
Ah, juste pour pas corriger?
Bah, en fait, c'est parce qu'il y a des fois où sinon ils sont en mode est-ce que vous pouvez me passer votre femme? Et je suis en mode. Ou est-ce que vous pouvez me passer votre mère?
Et tu t'as jamais tenté le coup de faire juste. Donc, ils te demandent ça, tu fais oui, d'accord, et ensuite tu changes de voix.
J'essayais. Non, des fois j'ai la flemme. Et aussi, je sais que des fois, ils me demandent des trucs de. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des fois, ils me demandent des trucs de sécurité en plus pour être bien sûr que c'est bien moi et que je suis pas en train de dupliquer quelqu'un. Et parce que mon changement de prénom n'est toujours pas effectif parce que la mairie de Montpellier, c'est des gros cons et parce que le procureur de la mairie de Montpellier est un gros transphobe. Voilà. Et ce sera dit publiquement. Et pour quand j'aurai enfin mon changement de prénom, on fera un grand feu de joie en cramant la mairie de Montpellier.
Ça me va.
Voilà.
Je pense que les tests de sécurité additionnels, c'est pour pas vérifier que Louis n'est pas composé de trois ratons laveurs dans un imperméable.
Presque, c'est trois opossums.
D'accord, écoute, ok. Voilà. Mais alors, du coup, c'est quel opossum qui fait la tête?
Tourne. C'est celui qui parle, mais c'est aussi celui qui a absolument une volonté d'éviter tout conflit et qui est prêt à se faire passer pour une meuf au téléphone, de se laisser mégenrer plutôt que de dire non à quelqu'un. Alors que la plupart des opossums, ils sont prêts à te gueuler dessus.
Bah, c'est
je crois
plus
qu'il
que
y a... Il y a un truc social sur cette histoire de voix au téléphone, parce que je sais que bien avant ma transition, si j'appelais, tu vois, par exemple, sur un truc de service et tout, en fait, j'ai une voix de téléphone. Quand t'appelles pour un truc un peu particulier, tu t'éclaircis un peu la voix, j'essaye de paraître un peu enjoué, tout ça. Et en fait, 3 fois sur 4, on me disait madame. Et donc, du coup, c'était cool en transitionnant, parce que j'ai vraiment jamais eu cet effet au téléphone de qu'on me mégenre vocalement. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y avait aussi ce côté, en fait, comment tu t'apprêtes à parler. Et que, voilà, je sais pas, les gens doivent s'attendre, tu vois, t'es un mec, tu dois avoir une voix monocorde et désagréable, en fait.
Et moins articulée. Est-ce que avant ta transition ou avant ton coming in, tu ressentais de l'euphorie à être techniquement mégenré au téléphone?
Ah mais complètement. Enfin je veux dire, c'était des... mais, non mais c'est, enfin je veux dire, ça a toujours été un truc, les gens rage au féminin au téléphone, ou alors quand j'allais me promener dans des boutiques avec des copines, quand je faisais mes études, j'avais les cheveux longs de dos, on te disait bonjour mesdames, et puis tu te retournes, tu fais... Oh, quel dommage, vous vous êtes trompé.
Oh non. Ah, oh, zut.
Je suis tellement mon collier.
Mon collier, merci que je l'ai pas la ref.
Ouais, non, ça m'est arrivé aussi. Et c'était un peu une... Ouais, c'est quelque chose que je mettais en avant aussi quand je disais non, moi au téléphone, c'est à peu près 1 fois sur 2. Et le problème, c'était qu'après le coming out, c'était resté 1 fois sur 2, et c'est ça qui me... J'avais un niveau un peu en plateau et j'arrivais plus à progresser.
Ouais. Alors, c'est drôle parce que très récemment, en fait, j'ai eu le sentiment, en écoutant des enregistrements, le podcast, autres, que j'avais un peu... Je sais pas si j'ai laissé aller ma voix ou quoi, mais j'avais l'impression d'être descendue.
Ouais. Pardon, je dis oui, moi aussi, pas oui pour toi.
Et y avait vraiment le côté, tu vois, par exemple, là, d'avoir repris le boulot. Je vois que, en fait, j'ai cette espèce de mécanisme conscient, je démarre et je prends une intonation et je monte un peu et je suis vachement plus vigilante à ma voix que je l'étais avant. Et je me dis à un moment, est-ce que ça vaudrait pas le coup de retourner voir l'orthophoniste? Parce qu'après tout, pourquoi pas? Mais c'était, c'est très très récemment et vraiment, on parlait de voix, je réécoute 2-3 trucs, je dis, mais attends, c'est marrant, c'était plus haut avant, en fait, genre, il y a 3-4 ans. Donc, bon, voilà. Et en même temps, ça veut peut-être aussi dire que, pour autant, on ne mégenre pas vocalement, mais c'est plus à moi que ça plaisait moyennement.
Bon, c'est bref. Important pour pouvoir se réécouter quand même.
C'est assez drôle. Moi, il faut que j'aille voir un ou une orthophoniste depuis pas mal de temps. Mais la première fois qu'on m'a conseillé ou qu'on m'a dit d'aller voir un orthophoniste, c'est parce que j'arrête toujours pas d'ailleurs, de m'étouffer avec ma salive. Au point où c'est problématique, et du coup un docteur m'a conseillé d'aller voir un ou une orthophoniste. Ouais. C'est un peu plus pathétique que pour vouloir changer de voix.
Ouais, pour la déglutition, en fait.
Tu le vis bien de...
Bah, ça m'est arrivé juste avant l'enregistrement, là, dans la cuisine.
Oh non.
Sweetie.
Moi, il faut que j'aille en voir un, mais juste parce que, en fait, le son qui sort de ma bouche n'est pas celui que j'entends dans ma tête.
C'est pas tout le monde, ça?
Non, mais je sais pas, plus qu'avant. Oui, mais plus, enfin, tu vois, genre. Et on en a parlé récemment parce que j'ai fait un karaoké. Et en fait, avant, je savais chanter juste. Et maintenant, je ne sais plus du tout chanter juste. Et parce que je pense, en fait, j'ai de la mémoire musculaire. Et que du coup, forcément, je suis désaccordé. Parce que la pisto. Et en fait, j'arrive pas à monter. Enfin. Avant, tu vois, j'arrivais à m'entendre et à me dire, ok, là, je suis juste ou pas. Et là, j'arrive plus.
Ok. Ça se trouve, c'est un problème d'audition, pas un problème de voix.
Ouais, aussi, hein, genre, ça se trouve, j'ai les oreilles pétées. Ça fait une force d'avoir de la musique à fond dans les oreilles tout le temps pour pas entendre le monde autour de moi.
Moi, j'ai eu le même problème de sorte de mémoire du larynx, qui était que pour moi, quand j'avais une voix satisfaisante, pour moi, ça voulait dire avoir une certaine tension dans la gorge, et qu'à partir du moment où j'arrivais à obtenir cette voix sans la tension, je me disais, ah mince, c'est plus la bonne voix, alors que le son était bon, mais la tension dans ma gorge n'était plus bonne, donc ma voix continuait à augmenter, enfin pas à monter au fur et à mesure, et c'était ridicule.
C'est bien, moi n'ayant jamais chanté juste, j'ai pas ce problème. J'ai juste continuellement, je sais continuellement que je chante faux en fait. Du coup, peu importe ce qui sort en fait de ma bouche, 99% du temps, je sais que c'est faux. Mais j'adore les karaokés quand même. Hein.
Mais voilà, un karaoké c'est fait pour être fun, pas agréable.
C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont auto-tunés. Tunés, je sais pas comment on prononce ça.
Bah là, c'était pas. Mais c'est surtout qu'en fait, chanter c'était un de mes régulateurs émotionnels.
Ouais.
Et qu'en fait, maintenant, genre, c'en est plus un parce que j'arrive pas à chanter juste et du coup, je suis en mode. Bref, et du coup, genre, je peux pas chanter de manière qui me satisfait, et du coup, j'ai ça en moins pour réguler mes émotions.
Bah ouais, un orthophoniste ou un prof de chant, ça te ferait du bien, peut-être.
Mais pas l'argent. J'ai pas l'argent pour me payer une prof de chant.
Oui.
Oui. Mais y a pas quelqu'un, c'est pas un projet, y a pas justement un projet autre nos voix trans qui a un truc de chant?
Si, avec l'espace santé trans, mais c'est des cours de chant qui vont être à Paris.
Ah.
Et moi j'habite à Montpellier.
Oups. Pour l'instant.
Oui, bon après en fait je pourrais retourner à la chorale queer. Enfin j'en avais déjà parlé dans le podcast de la chorale queer. On avait même mis un extrait, donc ouais. Je pourrais y retourner, mais enfin c'est juste que. J'ai déjà 2 entraînements de derby par semaine. Si en plus je rajoute un soir dans la semaine qui est pris par la chorale, il me reste plus tant de temps que ça.
Je serais toi, j'en profiterais pendant que je travaille pas, mais.
Bah, le truc c'est que les soirs c'est mes moments de sociabilisation avec les autres gens, avec mes autres potes qui travaillent en fait. Ah, et que oui. Du coup, si je prends un soir pour faire autre chose. Bah, ça me fait ça en moins pour voir mes potes, parce que la majorité de mes potes travaillent et du coup en journée ils sont pas dispo.
Comme d'hab, hein, une raison supplémentaire pour abolir le capitalisme et le travail. Hein.
Ouais.
Mais... ouais. Pour que Louis chante. Voilà, c'est ça la raison.
Oh là là.
Je suis assez d'accord avec l'idée.
Ces gauchistes qui n'en ratent pas une de rappeler leur sinistre agenda.
C'est ça. En parlant de gauchistes, pour faire une transition vers le sujet suivant.
C'était l'idée. Merci pour ce travail de cirque là, c'est magnifique.
Séraphin, t'aurais pas quelque chose à nous dire sur ton sujet du coup
Oui, bah, comme vous avez pu le constater lors de l'enregistrement, je n'étais pas là. Et du coup, je crois que c'était Jenna qui en a parlé dans l'ancien enregistrement, mais. Il s'est passé quelque chose dans un squat anarcha-féministe trans-pédéguine ouvert en novembre 2021 qui s'appelle La Baudrière à Montreuil. Et c'est un endroit où moi je me suis retrouvée énormément de fois. Et au début, pas du tout pour des trucs TPG en vrai. J'y étais parce que le collectif écolo dans lequel j'étais, on faisait nos réunions là-bas. Et c'est notamment là où on a commencé le podcast aussi à Vie de Tempête. Et je vais essayer de pas pleurer, mais c'est assez émotionnel quand même pour moi de parler de ça, parce que du coup pendant que j'étais pas à l'enregistrement, le squat s'est fait expulser. Et donc là ça fait bientôt un mois, ça va faire un mois même je crois. Et j'ai préparé un truc et tout, désolé, c'est juste mes émotions, parce que c'est vraiment... Déjà, c'était le premier lieu de TPG non marchand où j'allais, donc qui n'était pas un bar, donc non marchand et non institutionnel, parce que j'étais déjà allé aussi au truc là, truc dans le marais, mon dieu, le centre LGBT de Paris.
Et le truc institutionnel dans le marais.
Oui, pardon.
Moi j'aime bien, c'est que je parlais de Séraphin avec un ami il y a quelques jours et j'ai dit bon, c'est cool, mais des fois c'est tu dois chercher les mots pour lui.
Oui.
Et il m'a répondu bah oui, c'est normal, enfin c'est oui, on est habitué quoi, c'est un sport, c'est, voilà.
Oui, c'est j'ai mon propre langage et c'est un déchiffrage constant pour les gens qui m'entourent. Je suis désolée pour toutes les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Mais du coup, c'est vraiment le lieu où où j'avais l'espace d'exister et de juste être présent sans devoir à genre sans devoir soit performer quelque chose, soit devoir produire quelque chose. Et c'était vraiment très très je sais pas si relaxant est le bon mot, mais c'était une fatigue en moi, que une pression en moi que je sentais à l'extérieur. Je suis désolée si on entend les grattoirs de mon chat qui gratte à la porte, qui veut se faire entendre et qui veut participer à l'entretien.
Je t'avoue que moi je l'ai pas entendu, donc je prouve pas. Ah, okay. Je pense que derrière le micro non plus.
D'accord, ok, très bien. C'est l'endroit aussi où il y avait toujours un truc où manger quand j'avais faim. Il y avait toujours une cuisine immense où on pouvait toujours trouver quelque chose à manger et où se rendre utile en faisant la cuisine aussi s'il y avait besoin, et pour sociabiliser, c'était toujours quoi chouette. Mm-hmm. C'est aussi l'endroit où je me suis fait injecter par un adelphe pour la première fois. Et voilà, il y a vraiment tellement de choses extraordinaires, et je peux éventuellement développer plus sur toutes les choses qui se sont passées à la Baudrillère pendant qu'elle tenait encore. Et elle a tenu vraiment jusqu'au bout. Les keufs, les keufs ont mis plus de 5 heures à essayer de rentrer dans le bâtiment parce que tout avait été barricadé. On a vraiment des gens qui nous ont transmis énormément de savoir-faire en termes de BTP pour faire tenir le lieu. Et la volonté était vraiment de mettre autant de bâtons dans les roues possibles au CAF jusqu'au bout, de tenir ensemble le bâtiment et de partir dans une explosion de joie et d'absurdité totale face à la violence qui était de la part des CAF. Et du coup, c'était des jets de confettis, c'était des jets, c'était un feu d'artifice qui a réveillé le quartier dès l'arrivée des CAF. C'était dans la cuisine, les gens juste s'assoient et prennent un thé et mangent des biscuits pendant que les keufs arrivent. Et c'était bien évidemment une playlist épique qui avait été prévue à l'avance et qui a été lancée et qui a tenu jusqu'au bout pour pas perdre l'aspect iconique de la Baudrillère. Et du coup, depuis, tout le monde est assez réparti dans plein de... d'endroits différents. Il y a eu les 48 heures de... Non, on n'a pas fait... Les gens n'ont pas fait 48 heures de gave. C'était 30 heures, une trentaine d'heures.
Ah, c'est pas mal d'heures.
Mais voilà, la gave s'est faite. Jamais personne n'a été seul. Et du coup, on a continué à chanter, on a continué à se donner des conseils vraiment tout le long du truc. Et même si c'était très dur, notamment physiquement, parce qu'ils ont laissé les gens dans une micro-cellule à 14, enfin dans une, il y avait 14 personnes, dans l'autre il y en avait 11, alors que c'était le jour de canicule de la semaine, et les gens n'avaient pas accès à l'eau, ni à faire pipi, ni même à de l'aération, ni rien. Et après, c'était à la fois difficile et à la fois très drôle de faire face à la cisconfusion des keufs qui n'ont absolument aucune idée du genre des gens et qui demandent si les gens sont hermaphrodites ou genre, qui sont juste extrêmement confus par toute la chose, déjà parce qu'ils s'attendaient pas du tout à ce qu'on soit autant, ils s'attendaient pas du tout à ce que les gens soient si jeunes, ils s'attendaient pas du tout à ce que les gens soient TPG en fait. Et désolé pour Luna.
Non, encore une fois.
Ok, ouais, d'accord, j'ai l'impression d'entendre qu'elle, moi, mais c'est peut-être parce que j'ai trop l'oreille habituée à réagir à son miaulement. Et là, moi, depuis, j'ai pas pu autant passer de temps avec elle que je voudrais. Parce que là, donc, tout le monde est un peu réparti dans différents squats, encore sur Montreuil. Moins d'organisation politique, beaucoup plus d'habitation, en fait. Et moi j'ai été obligée par le capitalisme à prendre un taf. Et du coup, le fait d'être séparée d'elle, c'est vraiment très difficile pour moi, et de pas pouvoir passer du temps avec elle et de pas aider à l'ouverture de nouveaux bâtiments, parce que le squat principal où là y elles sont va être expulsé également. Donc il y a un rassemblement, donc ce sera demain pour nous, mais le 26, parce que je pense que l'enregistrement sera pas encore sorti. Du coup, il y a un rassemblement contre la loi Casbarian qui se passe demain, et je vais pas pouvoir y aller non plus parce que je vais être au taf. Et ça me peine, c'est vraiment très déprimant pour moi de pas avoir ni le temps ni l'énergie, du coup, à cause du taf, de faire vraiment ce qui me tient moi à cœur. et de passer du temps avec des gens qui sont vraiment mes adelphes. Enfin, c'est très drôle la relation que j'ai avec elle parce que je suis une des personnes les plus âgées, ce qui est quand même assez drôle vu que je n'ai que 26 ans. Mais c'est elles qui m'ont appris mais tellement de choses précieuses, et je leur serai éternellement reconnaissant pour tellement de choses. Et ouais, j'ai écrit d'autres choses, mais j'arrive pas à savoir le temps que je passe à parler.
Bon, on n'a pas chronométré, donc dis ce qui est important, et puis voilà, c'est ouais. Toi qui joues.
Je pense que c'est l'essentiel, ouais. Mais après, on peut, genre, je pourrais encore raconter plein d'anecdotes ou plein de trucs, soit politiques, soit intimes, soit les deux, parce que l'intime est politique. Pardon.
C'est fini de s'excuser tout le temps, oui.
Mais c'est quand on me parle, en tout cas, et t'es partie dès le début avec de l'émotion, et quand on parle, c'est impossible de douter que t'aies vécu des choses très fortes émotionnellement parce que t'es avec du début à la fin. Et je pense que, en fait, tu dis tu sais pas là où t'en es en termes de temps. Mais si on t'arrête pas, je pense que tu peux continuer très longtemps. Effectivement, ouais. et c'est compréhensible. C'est enfin le peu que tu dis, il y a un côté de la vieille meuf un peu coincée que je peux être là qui se dit ah oh, putain ça devait être bien quand même.
Ouais, honnêtement, l'avoir vécu par procuration par Séraphin, ça, moi ça me donne envie de m'investir plus, alors que je sais que je suis pas vraiment faite pour être en première ligne, tu vois, mais le fait d'avoir eu un petit peu un pied là-bas quand même, ça, c'est motivant, je trouve.
Mais il y a plein de manières différentes de s'investir. Enfin, je dis que j'étais une des personnes les plus vieilles, mais parce qu'il y avait un énorme écart d'âge en fait avec la personne la plus vieille du lieu, qui est vraiment la daronne, qui avait la soixantaine d'années. qui habitait sur place et qui du coup en fait nous soutenait parce que c'était elle qui faisait énormément de bouffe, c'était elle qui avait déjà en fait les liens du réseau d'entraide et de solidarité sur place et qui pouvait du coup facilement contacter des gens et qui aussi faisait parfois enfin qui avait pas peur d'aller parler au keuf très franchement, et du coup ils voient une petite grand-mère arriver avec une canne et du coup en fait ça fait un effet où ils vont être beaucoup moins agressifs et ils vont juste en avoir trop marre qu'elle vienne leur parler. Et c'est extrêmement drôle à voir, mais du coup ouais, il y a vraiment plein de manières, enfin aussi sur toute l'organisation sur l'expulsion, on avait aussi des gens en fait à l'extérieur, donc ils sont soit il y en avait qui étaient en soutien sur place, qui sont venus genre pendant et qu'on entendait crier, qu'on entendait chanter aussi. Bon, il y en a qui se sont fait embarquer aussi, il y en a qui ont fait le rassemblement en fin de journée aussi, et il y en a en fait qui avaient tout prévu sur la legal team en amont et où du coup qui prenaient contact avec les avocats qui étaient prévenus, qui gardait tous nos documents et toutes nos informations dont on avait éventuellement besoin, qui gardait les contacts avec les gens qu'on avait envie de prévenir. Et enfin, il y a toute en fait une espèce de base arrière qui se met en place pour le moindre truc, pour que ça se fasse correctement. Et même d'un point de vue, qui gérait les réunions aussi en amont pour savoir quel niveau d'exposition à la violence au CAF on veut avoir, quel niveau de risque est-ce qu'on veut prendre, ce qui a été du coup reproché aux gens, c'était violence avec armes sur les CAF, donc apparemment le fait de jeter de l'eau et des confettis est une arme, et du coup ça à chaque fois c'était quand même discuté en amont parce qu'on sait que le moindre truc va être retourné bien évidemment contre nous. Et ça peut être une excuse en fait pour les keufs pour faire acte de violence beaucoup plus à un niveau plus élevé que ce que nous on fait habituellement, quoi. Et du coup voilà, moi j'y suis aussi, un des trucs que je faisais sur place c'était le fait d'avoir des street medics aussi pour au cas où il se passe quoi que ce soit en fait. Ça rassurait vachement les gens aussi quand même de se dire ok voilà, en fait on a des gens pour gérer tel et tel problème là. Et enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment un million de manières de prendre part aux choses sans être sur place et sans jeter des feuilles sur les keufs.
Mais je suis un peu triste que d'avoir loupé ça dans ma vie parisienne, parce que du coup la Baudraire est déjà ouverte quand j'étais sur Paris, mais j'ai pas eu l'occasion d'y aller malheureusement. Mais du coup je me rattrape un peu là parce que je vais prochainement faire un atelier drag pour soutenir un squat pour des personnes migrantes. Donc voilà, j'espère que, enfin en tout cas c'était impressionnant à voir et à entendre les histoires sur la BOD. Et notamment bah, après parce que j'ai regardé la vidéo d'XY Media où il y avait les images filmées du truc et c'est ouf à quel point genre vous avez réussi à rendre ça joyeux quoi.
C'était vraiment l'objectif, c'est genre comment on dit déjà, j'ai l'expression enfin partir en beauté quoi, c'était vraiment l'objectif quoi, c'est et c'est quelque chose qui à chaque fois se réfléchit, genre là par exemple le prochain squat qui va se faire expulser, on sait pas s'il va avoir assez de gens et à 3 pour tenir un bat ça se fait pas, genre ça, par exemple les gens ils vont abandonner le bat s'ils sont pas assez nombreux quoi, et c'est normal, et du coup c'est tout un truc à réfléchir et à voir s'il y a la motivation derrière aussi quoi, c'est pas évident mais quand ça peut se faire c'est vraiment chouette ouais.
Quand j'ai appris ce qui se passait au niveau de la Baudrière, moi ça avait fait écho à l'expulsion du Malakouine, qui avait eu lieu quelques mois auparavant. Et pour le coup, c'était un endroit où j'étais allée. Alors, j'ai pas résidé là-bas, mais j'étais passée une paire de fois pour une permanence, pour croiser des gens, parce que c'était pas loin de là où j'étais logée quand je venais sur Paris à l'époque. Et je sais que quand j'avais appris qu'ils expulsaient le Malakouine, j'avais vraiment eu le seum à ce moment-là parce que c'était le peu que j'étais allée là-dedans, c'était vraiment, j'avais croisé des personnes super intéressantes, on était parti sur des conversations de dingue que j'aurais pas du tout imaginé avoir en rentrant dans le bâtiment parce que j'étais venue pour un but précis. Et en fait, voilà, 3 heures après, t'es toujours là pour tout à fait autre chose. Et je me dis, mais en fait, quand en plus, bon, bah, tu sais que voilà, il y avait une amie à moi qui était à la Baude quand ça s'est passé aussi, donc on en a parlé toutes les deux aussi. Et il y avait ce côté, mais en fait, ils savent pas ce qu'ils détruisent. Il y a vraiment le truc, tu piétines quelque chose, tu piétines une communauté, tu piétines des liens humains, tu piétines des semaines, des mois de partage. Et puis, ce que je dis pas là, c'est qu'il y a tout l'aspect, les personnes qui vivent dans ce squat parce qu'elles en ont besoin, parce qu'elles sont précaires. Et ça, c'est vraiment rien à foutre. En fait, il faut vider un bâtiment. Et c'est un truc qui a... Je veux dire, moi je dis toujours d'où je parle, hein. J'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai un salaire, j'ai une vie confortable. Et ça me fait mal au bide de dire, mais attends, à quel moment il n'y avait pas la possibilité de laisser perdurer ces endroits, au moins pour le côté, il y a des personnes qui sont à l'abri de la rue. On arrive là doucement quand même vers des temps plus froids. Enfin, c'est... voilà, c'est vraiment le truc qui a tendance à me faire hurler, en fait, de dire, mais tu sais très bien, en fait, enfin, les personnes qui prennent la décision savent très bien derrière ce qu'elles engendrent, mais elles s'en fichent un peu. Et c'est assez surprenant quand t'as dit, finalement, les policiers arrivent et savent pas, enfin, sont surpris de découvrir les personnes qui sont au sein de ces communautés, leur âge, leur... Mais ouais, parce qu'en fait... l'objectif, c'est juste de vider la place, quoi. Et à un moment, tu perds de vue qu'il y a des humains.
Ouais. Bon, ça les attendrit pas au point de remettre en cause leurs ordres iniques.
Mais oui, il y en a qui disent, ah, oh, mais si ça tenait qu'à moi, je vous laisserais là. Mais bon, qui obéissent quand même aux ordres. Hein.
Globalement, ça tient qu'à eux, mais ils le font quand même.
Ouais. Mais ouais, c'est assez. Enfin, moi, je sais que ça me fait. Je sais que c'est horrible pour n'importe quelle personne de n'importe quel âge. Mais le fait que ce soit des personnes aussi jeunes. Je sais que ça me fait encore monter l'émotion et genre je peux pas m'empêcher d'avoir encore plus ce réflexe assez j'aime pas hein, mais presque parental de vouloir d'autant plus protéger ces gens-là en fait et parce que enfin c'est des gens en fait qui se sont retrouvés en squat et il y en a beaucoup, c'est parce que rupture familiale, c'est parce que ben en fait genre pas possible de trouver un taf, pas possible de trouver de continuer les études et pour mille raisons qui affligent les personnes queer quoi. Et le fait que ce soit une mairie du coup de gauche qui se dise communiste, c'est une mairie PCF quand même qui fasse ça, et t'es là genre Ouais, et pour un projet qui en plus va gentrifier, c'est pour des hôtels de luxe avec des boutiques ultra chères qui vont s'y mettre, et c'est, enfin, la rage, quoi.
Et puis, enfin, ça c'est un de mes chevaux de bataille, mais c'est encore une fois des activistes de gauche qui suppléent le rôle de l'État et des collectivités, qui serait d'accueillir des jeunes en rupture familiale. Et c'est un petit peu risible de se dire que je sais plus si c'est la ville de Paris ou la région Île-de-France qui a mis à disposition genre 30 places pour les enfants LGBT qui ont été exclus de chez eux. C'est un petit peu vite rempli, quoi.
Oui.
et enfin, savoir comment est-ce qu'on obtient, comment est-ce qu'on accède à ce genre de dispositif.
Ouais, parce que souvent c'est des dispositifs très infantilisants et presque humiliants où tu dois te justifier dans le fait d'être dans la précarité et d'avoir dans le besoin, et t'es obligé de passer par 1000 barrières et de sauter dans 1000 cerceaux pour pouvoir y accéder, et du coup il y a plein de gens qui de par ces barrières là en fait n'y accèdent jamais.
Ouais.
Alors que là c'était vraiment ah, t'as besoin d'un toit, s'il y a la place on te file une chambre, et sinon il y a au moins l'hébergement d'urgence et on va t'aider en fait à t'accompagner jusqu'au bout pour trouver une autre solution, quoi.
Ouais.
Et sans demander de justificatif, sans demander de redevance, ou sans demander je sais pas du tout quelles sont les démarches pour faire ça, mais
qu'est-ce qu'on fait, on essaie de se renseigner, de mettre ça dans les notes d'épisode.
Si vous voulez accéder aux 30 places en Île-de-France.
Alors, appelez Valérie Pécresse au 06.
Excusez-nous. Est-ce que vous étiez passé sur cette vidéo de In France, We Don't Say, oh là là, les transports en commun ne marchent pas, mais on dit Pécresse, tu chies dans la colle. Voilà. C'était ma contribution à la.
C'est-à-dire que le monde entier est en train de se rendre compte doucement que les transports en commun sont une nécessité pour essayer de faire en sorte que la planète ne crame pas dans les 5 ans qui viennent, et l'Île-de-France augmente le tarif des transports en commun.
Alors que ça devient gratuit ou beaucoup moins cher, en tout cas je sais plus, en Allemagne c'est ça. Mais
Oui, l'Allemagne, ouais. Les Pays-Bas. Vous vous souvenez, il y a une époque où les canicules en France, on rendait les transports publics gratuits pour une journée.
Oui. Mais c'est même bien, chose, c'est genre, bien dans certaines villes de France, à Montpellier, là, d'ici la fin de l'année, en fait, les transports en commun seront gratuits pour toutes les personnes résidentes.
Ouais, j'ai vu ça.
Oh, trop chouette.
C'est déjà gratuit les week-ends, en fait.
Ouais.
Et là, ça va être gratuit pour tout le temps quand t'es résident et résidente, quoi. Et du coup, bah, c'est chouette parce que,
Il y a des trucs qui fonctionnent dans cette mairie, c'est fantastique.
Incroyable, t'as vu. Non, mais après, tu vois, enfin bref. En vrai, Montpellier, on n'est pas si mal loti que ça. C'est juste que je suis très énervé parce que ça me touche personnellement, et parce que, genre, chaque année, on a droit à, genre, des trams avec marqué Montpellier thème en gros dessus et machin. Et puis à côté de ça, quoi, genre, toutes les personnes trans qui veulent faire des démarches de changement de prénom et qui ont un prénom qui est un petit peu en dehors de la norme, ou qui veulent, genre, mettre Marie en troisième prénom alors que c'est des mecs trans, pour pas donner d'exemple personnel. Ils sont en mode, non. Et au nom de quoi, tu vois, t'es en mode. Qui ça fait chier. Enfin, genre. Bref, pardon. C'est des sujets qui sont beaucoup moins graves que ce que tu viens de parler, tu vois. Genre, pardon, je suis désolé.
Parce que là, Séraphien, il vient de nous tirer des larmes et tout. Et là, on est juste en train de rentre sur des trucs finalement qui n'ont rien à voir.
Mais oui, je suis désolé.
Vous avez des trucs à rajouter à propos de la Baudrière, souvenons-nous.
Je suis désolé. Oh là là.
Mais moi aussi.
Non, mais en vrai, on peut tirer plein de liens avec plein de choses, hein, parce que aussi l'intérêt de fonctionner en dehors du système, c'est que tu peux obtenir un logement en utilisant un blaze qui n'a rien à voir avec ton état civil facilement aussi.
Bah, c'est vachement simple quand on enlève le loyer de l'équation, c'est
sûr. Oui, voilà, c'est ça. Le loyer, les charges, quand il n'y a plus tout ça, ça enlève aussi la pression de devoir avoir un taf, et du coup, ça. C'est quand même chouette. Il y a juste plein de réparations à faire.
Est-ce que autre chose à ajouter?
Je pourrais parler pendant 1000 ans, mais ça m'intéresse aussi de t'avoir le sujet de Louis.
Alors, bon, là, c'est pas mal qu'on passe au sujet de Louis. Alors, avant ça, je voudrais souligner le fait qu'on doit être à plus ou moins une trentaine d'épisodes d'un podcast trans en comptant les hors-séries, plus une quinzaine d'épisodes de Nos Voix Trans, plus ceux-là. Et on a quand même oublié de mettre des écouteurs sur nos oreilles. On va donc avoir un enregistrement avec le son de nos collègues. Donc je propose une petite pause, le temps d'aller chercher des écouteurs. Et on revient.
Ouais, j'y ai pensé au début.
Ouais,
mais
ouais,
je me suis dit, oh, ça, c'est normal.
C'est l'épisode de toutes les péripéties.
Oh mon dieu.
C'est l'épisode de la galère. Je suis en train de chercher le doubleur de casque.
J'allais dire, t'entends Charlie, quand t'es pas là, il se passe plein de trucs qui vont pas. Mais en fait, genre, de un, genre, je veux pas le faire culpabiliser parce que le pauvre. Et de deux, je sais qu'il écoutera pas l'épisode.
C'est terrible parce que quand tu parlais de cette histoire de prénom, j'étais en train de me dire, en fait, si sur mon CEC, parce que j'ai déjà changé de prénom, sur mon CEC, je fais donc rajouter Mike, alors qu'il y a déjà Mika avant. Est-ce qu'à un moment, il n'y en a pas, il n'y a pas une personne à l'état civil qui va bugger en disant, mais elle se fout de notre gueule, celle-là.
Ok, si c'est trop galère, ça me va d'aller me coucher.
Mais non, mais c'est vrai.
J'ai envie de participer, mais si c'est trop galère.
Mais pas au point d'être là. Ok, d'accord.
Si. Non, mais si. Mais,
vas-y, reste là.
Mon dieu, moi j'ai fait ostéo et kiné aujourd'hui. Ouais. Ça m'a mis en chaussettes molles.
Non, mais tu m'étonnes. Moi, genre, déjà qu'en sortant juste de l'ostéo, j'ai envie de dormir. Mais alors enchaîner ostéo et kiné, enfin, genre, comment t'es encore là?
Ça t'a mis en chaussette molle. Alors là, j'avoue que je connaissais pas l'expression.
Non, mais parce que j'ai en tête.
Mais Séraphin non plus.
Non. Mais c'est pas. En tête, j'ai carpette, mais je sais que c'est pas ça. Je sais pas quelle est l'expression.
Non, mais c'est. Mais en fait, t'es en train d'illustrer ce que tu disais tout à l'heure et ce que Jenna disait tout à l'heure sur le côté. Ben, en fait, Séraphin a son langage propre.
Ah oui, non, c'est une catastrophe, hein.
Mais il y a un truc, t'as raison, qui commence par un truc qui est similaire à chiffon ou un truc comme ça.
Mais oui! Mais je sais plus ce que c'est.
Merde!
Non, c'est pas ça.
Non, mais... Merci! Le seul truc que j'ai en tête, c'est lavette, mais c'est pas ça.
Genre,
parce que une lavette, c'est pour. Enfin, c'est une pâte.
Une serpillière?
Non, ça commence par chou aussi, je crois.
Une vache en langue.
Qu'est-ce que c'est ça?
Non, c'est une lavette. C'est genre. C'est
du langage du Pas-de-Calais.
Ah,
oui. Ah, mais non, ça m'a mis. Ça m'a mis en loc. C'est ça le truc.
Ah,
une chiffre molle. J'étais une chiffre molle.
Oui. Alors c'est différent parce que la chiffre molle, c'est quand t'es pas courageux.
Oui, mais c'est chiffre molle l'expression. Ouais.
T'es une chiffre molle, t'es pas courageux. Je suis en loc, je suis crevé.
Je suis okay. Une loc. Je pense que tu confonds mettre en loc et mettre en cloque.
Non. Enfin, je sais que chez moi, on dit je suis en. Ah non, pardon. Je suis en loc, c'est je suis mal habillée.
Je suis en guenille.
Et je suis en loc, je suis une loc, c'est je suis fatiguée. Oui. Je sais pas si c'est enregistré tout ça, du coup.
Tout ça, c'est enregistré, mais on n'a pas arrêté les enregistrements.
Je me suis, je sais plus avec qui on a eu la discussion que des différents mots régionaux pour dire lavette. Et que en fait, et que du coup, lavette c'était aussi une insulte homophobe. Et je me suis dit, imagine si tu transmets, enfin, tout le monde t'appelait par les différents noms locaux des lavettes, une wassingue dans le nord, mais enfin, du coup, ma grand-mère dans le nord, elle disait lavette aussi. Mais dans le coin où j'ai grandi, on appelle ça une panosse. Mais du coup, dans ma tête, je sais pas pourquoi ça fait lavette, c'est pour les mecs gays, et panos, ça fait pour les lesbiennes, tu vois. Genre, je sais pas, de la manière dont ça sonne, ça serait une bonne manière de dire goudou.
Il faut lancer la trend de réemployer, il faut faire des t-shirts régionaux queer. Je suis d'accord pour ça, avec le patois local. J'ai envie de chercher comment ça se dit en occitan maintenant.
Excellent. Ah bah je peux demander si tu veux parce que il y a des clubs d'occitan et des chorales occitanes dans le coin de Montpellier.
Oui. Mais...
Ça et alors j'ai Ah non, c'est bon, c'est, j'étais en mode, pardon, je tapais le micro, mais je tapais le micro avec lequel vous m'entendez, pas lequel avec j'enregistre. L'expression être à voile et à vapeur.
Oui.
Mais genre, oui. Celle-là, je l'aime beaucoup.
Ah oui, elle est fabuleuse, celle-là. Enfin, ouais. Je l'aime beaucoup.
Oui. On est en train de faire un sujet lexicographie.
Et on ne s'est pas concerté, et en fait, on a un sujet qui vient de drop comme ça dans le podcast.
Il faut, voilà. Moi, je vous dis, il faut qu'on enregistre toutes les semaines.
C'est ça.
On a des trucs à sortir de notre système. Hein. C'est...
Ah bah. J'ai failli faire une blague, ça.
Non, mais fais-la maintenant.
C'est le moment.
Bah, enfin, je t'en prie, Louis, tu es à l'antenne. C'est. Voilà, c'est fait pour.
On est entre nous.
Tu passes de la branlette intellectuelle à la branlette littérale, du coup, mais. Ouais.
Eh ben, allons-y. Expulsons nos démons.
Ah là, je suis désolé. C'est vraiment une mort de rire. Alors,
tu m'en fous peu. Hein.
Tu vas nous raconter un truc ou tu veux un truc dans le ventre?
C'est, ah, donc tu parles d'Alien, du coup. Voilà, Louis, donc tu vas nous parler du 8e passager. Vas-y, on t'écoute.
C'est ça. Non, mais j'avais une transition sur le être à voile et à vapeur, parce que du coup, la chanteuse dont je vais parler aujourd'hui, apparemment, est à voile et à vapeur aussi. Du coup, on va parler de une personne que, si vous avez grandi avec le YouTube français, et que vous êtes queer et que vous êtes à peu près de ma génération, vous voyez très bien qui c'est Pomme. Voilà. Qui est une chanteuse francophone bisexuelle qui a sorti son troisième album récemment et qui a fait un et le, l'album qu'elle avait fait avant qui était son deuxième album qui s'appelle Les Failles Cachées. Dedans il y a plein de chansons que j'adore et notamment une qui s'appelle Grandiose. Et de quoi ça parle? Et surtout pourquoi j'en parle, c'est parce que genre j'adore trouver j'adore tourner. Oui, non, j'adore tourner les chansons de manière à ce qu'elles soient trans. Et que. et que du coup, celle-là, on pourrait le faire. Donc, elle. Pomme, si vous la connaissez pas, bah déjà, qu'est-ce que. Enfin, de...
Donc, tu veux dire que Pomme est cis?
Oui, Pomme est cis. Je lui ai jamais posé la question directement, mais a priori, Pomme est cis. A priori, en relation avec une meuf, aux dernières nouvelles.
Est-ce qu'elle a confirmé être cis? Parce que si c'est des a priori, elle peut être, ça peut être aussi a priori une personne trans. Hein. Tant qu'il n'y a pas confirmation dans l'un des deux sens. Hein.
Écoute, si tu veux, alors la petite blague, c'est que c'est techniquement ma cousine par alliance. Et mais alors, je l'ai jamais rencontrée, je la rencontrerai jamais. C'est genre, en gros, c'est la cousine de la meuf de mon frère. Mais
ça s'organise. Je veux dire, ton frère peut se marier par un jour.
Oui, voilà. Bon, ils sont pas partis pour, mais voilà. Bref, si je sais pas, un jour, genre, je sais pas, les 10 ans de mon neveu ou que sais-je. Mais,
c'est du tout petit name dropping, mais c'est rigolo.
J'en sais rien. C'est le seul flex que j'ai, tu vois, genre de connaître des gens célèbres. Qui sont. Enfin, je connais plein de gens célèbres, mais qui sont célèbres dans la communauté trans. Bref, je m'égare.
Oui, t'es à l'antenne avec.
Oui, c'est ça.
C'est Mika.
C'est Mika, tout à fait.
C'est Mika et Jenna.
Et Jenna. Et des fois Charlie.
Mais.
Et,
ouais.
Bref, du coup, Pomme, c'est une chanteuse francophone qui fait des chansons queer, qui est notamment connue pour sa chanson On brûlera, qui est une chanson extrêmement lesbienne et explicitement lesbienne.
Moi, j'aime bien la revendication de l'introversion dans J'aime pas danser.
Oui, oui, oui. Tout le truc des failles cachées est sur sa santé mentale, ses faiblesses et sa vulnérabilité. Et du coup, il y a plein de sujets qu'elle aborde comme ça qui sont super chouettes. Et notamment, dedans, il y a Grandiose qui parle de son désir d'enfant. Et pourquoi c'est une chanson qui, moi, me fait évoquer des sujets trans, c'est parce que le premier vers, c'est « Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre ». Et c'est un truc qui me fait écho personnellement parce que je suis passé de quelqu'un qui a été en mode « Jamais de la vie, je ne veux d'enfant ni être enceint ». Ah, bah j'ai juste pas envie d'enfant, mais genre voilà, à voir des mecs trans enceints et me dire ah bah en vrai peut-être. Et je suis passé de bah en fait genre franchement faire des enfants dans ce monde bof à franchement si un jour je tombe sur la bonne personne pourquoi pas. Genre pour l'instant j'en suis juste à j'ai juste pas de bonnes raisons d'en avoir.
Ouais.
Mais si un jour les bonnes raisons sont alignées voilà. Est-ce que je vous la fais écouter pendant que
bah oui avec plaisir. Allez. Est-ce que là on imagine que je coupe, est-ce que tout le monde l'a déjà entendu?
Non.
D'accord, ok.
J'ai écouté 3-4 fois par jour en ce moment vu ma playlist. Pour de vrai, hein. C'est vraiment pas un mensonge.
Incroyable.
Même si je suis de la même génération que Louis, que je suis queer, je n'avais pas le YouTube francophone, donc j'ai découvert Pomme sur le tard.
Ouais,
et je l'ai très très peu écouté et je crois n'avoir jamais écouté cette chanson.
Ok, alors c'est parti.
Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement dû taire parfois l'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me mentent, qu'ils disent que je suis comme les autres, je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime. Qu'on ait une vie grandiose, grandiose. La vie que j'avais inventée pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée. Une vie comme ça n'existe pas. Goutte de sang et bouche qui s'effleure dans la cour. J'ai dit, moi je veux un enfant avant de connaître l'amour. L'amour qui déborde de moi, qui dit, tu n'es pas comme les autres. Des filles prendront ton cœur à toi. Bats-toi, t'auras une vie grandiose. Grandiose, la vie que j'avais inventée pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée. Une vie comme ça n'existe pas. Sûrement dû taire parfois l'envie si grande et menaçante. Depuis les cloches assourdissantes, le gris de l'église de fond rose, je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose, grandiose.
Cette chanson-là, je trouve qu'elle peut être un peu trans. Et du coup, donc, le premier vers, je voulais expliquer pourquoi. Mm-hmm. Et j'aurais sûrement dû taire parfois l'envie si grande et menaçante. Mm. Il y a un peu ce truc de... Alors, je me suis un peu projeté, mais pour les meufs trans, ce truc de devoir taire ce truc, cette envie, parce qu'il y a une... On peut encore pas avoir de... Enfin, c'est encore pas possible pour les meufs trans de pouvoir porter un enfant, malheureusement.
Techniquement, même si... Aussi.
Ah ouais.
Il y a déjà un certain nombre de greffes d'utérus qui ont été réalisées sur des meufs cis. il n'y a rien techniquement qui arrête l'agrès d'utérus de pouvoir être réalisé sur une meuf trans, à part la volonté explicite des chirurgiens de dire non.
Ok. Est-ce qu'il y a déjà des grossesses qui ont été menées
pour des meufs cis, oui.
Ouais.
Oui. Oui. Mais du coup, oui, c'est ça. Mais alors, j'allais demander, j'allais dire pour l'instant, parce que j'avais vu effectivement il n'y a pas longtemps un article qui disait qu'ils avaient réussi à faire une greffe d'utérus sur une meuf trans qui avait vachement bien marché, justement.
Non, sur une meuf cis.
Sur une meuf cis.
Alors, peut-être tu m'apprends un truc.
Attends.
Alors, moi, de mémoire, il y a eu. Avait été médiatisée une femme trans, mais d'une personne intersexe, qui avait pu mener une grossesse parce que pour le coup elle avait aussi un utérus. Je crois que c'est l'année dernière, hein, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je recherche ça, mais ça m'avait en fait comme d'habitude l'article était tourné de manière à être assez putaclic et du coup après tu découvrais que oui, mais c'est pas justement à la faveur d'une greffe d'utérus ou d'une évolution d'une législation quelconque qui aurait permis cette greffe d'utérus dans un pays, mais c'était en fait pour le coup c'était une personne intersexe qui était aussi une femme trans et qui avait du coup ce qu'il fallait pour pouvoir mener sa propre grossesse.
Bon, j'ignorais, mais je n'en suis pas moins désireuse de me mettre sur une liste d'attente.
J'ai un article de Sciences et Vie là, qui dit que pour la première fois au monde, une greffe d'utérus est planifiée sur une femme trans en Inde, qui date du 16 mai 2022.
D'accord, planifiée.
Ouais.
Okay. Ouais, c'est ce que j'avais recherché aussi, et c'est aussi ce que j'avais trouvé. Mais après. Genre, c'est pas du tout une source sûre, mais j'ai aussi eu des échos d'une meuf trans aux US qui a pu faire ça. Et qui a eu du coup après ça a pas été ça il y a eu procréation médicalement assistée de ce qu'elle disait après bien après j'ai pas suivi toute l'affaire mais ouais je saurais plus me rappeler assez bien en fait pour en parler.
Ok.
Pas dû me lancer.
Mais bref.
Je me suis dit ça va me revenir mais en fait non.
Du coup, ça pour dire, enfin, par rapport à l'art de.
Oui,
de
désolé.
Non, c'est ok. Genre, c'est aussi pour qu'on en parle. Et aussi parce que je parle d'un truc qui me concerne pas pour le coup, qui est genre, parce que je suis pas une meuf trans a priori. Donc... Enfin, a priori, non, je ne suis pas une meuf trans.
Il est jamais trop tard, Louis.
Join the dark side of the force!
Ah, et franchement, ça m'a coûté assez cher de me faire enlever les seins, j'en remets pas, hein, genre laissez tomber les.
Mais qui a dit qu'il fallait des seins pour être une meuf? Qu'est-ce que c'est que cet essentialisme? Dis la meuf sur une liste d'attente pour avoir des boobs.
Exactement. Mais oui, donc du coup, il y a de faire taire cette envie d'avoir des enfants, mais aussi parce que je trouve que dans les communautés queer et de notre génération, le désir d'avoir d'enfants, c'est un peu un truc qui est pas courant chez les personnes queer de ma génération. Et j'ai l'impression que la plupart des personnes queer autour de moi sont plus genre des fétiches dans ce sens de. Bah, en fait, non, on n'a pas envie d'avoir des enfants, quoi. Et d'ailleurs, quand Pomme, du coup, en parlait de la chanson. Elle disait que c'était sur son désir d'enfant, mais aussi sur le fait que, genre, en fait, elle a peur d'avoir un enfant dans le monde dans lequel il est, et elle a peur de ce genre de ce à quoi ses enfants hypothétiques seraient confrontés si elle en avait. Donc, entre catastrophe climatique et montée du fascisme et tout ça, machin.
Ouais.
Ouais, c'est, alors ça c'est un truc vraiment. Quand je disais tout à l'heure, c'est assumé hein, vraiment. Je suis contente de ne pas avoir la possibilité biologique de porter d'enfant, et j'étais très contente d'avoir ce rôle dans les deux grossesses qu'a connu ma compagne de l'époque, justement d'être celle qui accompagnait la personne qui portait l'enfant. C'était un rôle dans lequel je m'investissais pleinement. En revanche, là, ce que tu indiques. Bah moi qui ai deux enfants et qui suis très réaliste aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde actuel, il se passe pas une journée où je me dis mais en fait c'est t'as, voilà t'as, c'est même pas pas fait une connerie, c'est dans quoi tu les as mis en fait, parce que c'est au final ils sont là et, et ça c'est un vrai flip du quotidien quoi. Je suis désolée d'ailleurs, j'aimerais bien être plus positive, en général j'essaye de l'être,
ce mais, sera mon rôle, continue.
Mais c'est
moi
une,
si je peux l'être,
c'est une peur du quotidien que j'essaye vraiment de pas exprimer devant eux, de surtout pas leur transmettre et de voilà, et d'essayer de les armer, de les équiper, de leur faire voir plein de choses et tout, parce que c'est important. Et en même temps c'est là tout le temps, c'est ancré tout le temps, et à chaque fois que j'entends un truc concernant le climat, à chaque fois, à chaque été qui passe, je me dis oh putain quoi. C'est toi, il te reste potentiellement 30-40 ans à tirer, quoi, mais eux. Désolée, je suis vraiment désolée d'avoir plombé l'ambiance, mais.
Non, je crois pas. Enfin, j'ai pas l'impression que t'aies plombé l'ambiance, mais le. Aussi parce que j'ai vraiment une vision radicalement différente de ça, qui est que je suis certaine que l'effondrement va venir, que j'ai choisi dans ce contexte-là de participer à faire naître et élever un enfant racisé et dont les deux mamans sont queer, mais avec aussi la certitude que justement c'est remplir la part pour ne pas avoir plus que des connards d'extrême droite armés jusqu'aux dents qui vont galoper dans la campagne une fois qu'il n'y aura plus aucun garde-fou. Qui aura aussi des gens cool en fait et qui sera préparé. Je sais pas s'il y a eu vraiment une période dans le siècle passé où l'ambiance était bonne pour avoir des enfants. Parce que même les boomers qui ont fait des mômes à une période, enfin qui sont nés à une période que rétrospectivement on appelle un peu bénie, qui leur a permis d'accumuler énormément de richesses pour pas grand chose et de pourrir le monde derrière eux, bah, ils ont grandi dans la guerre froide, qui était un monde avec une terreur permanente de la guerre atomique, qui est pas très éloignée de ce qu'on vit maintenant. Et ce qui a suivi après, pas terrible non plus. Ce qu'il y avait avant, c'était deux guerres mondiales. Enfin, c'est. Je me dis que ce défaitisme-là est finalement notre lot, quel que soit notre âge. Et que si ça décourage les personnes qui ont une conscience politique, ça ne découragera pas les lapins et les poules pondeuses fondamentalistes religieux qui vont continuer à laver le cerveau de gamins qui seront les armées d'en face quoi.
Pardon, vas-y.
Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Jenna, je sais. Et c'est pas pour rien non plus que je me suis embarquée depuis janvier 2022 dans le parcours pour faire conserver mes œufs. Mais c'est, même si je sais pas encore quel rôle je serais amenée à jouer en tant que figure parentale, j'ai pas encore décidé si je souhaitais porter un enfant ou si je souhaitais être coparent ou je sais que je veux être autour d'enfants autour de moi plus tard, mais je sais aussi que malgré tous les trucs horribles qui vont potentiellement arriver ou qui vont arriver certainement, j'ai l'impression que ça vaut quand même le coup parce qu'il y a tellement de joie quand même qu'on peut trouver dans les, peut-être pas dans les, enfin, j'ai pas envie de dire dans les pires moments, mais c'est juste, il reste quand même ces poches d'espoir, ces petites bulles en fait de joie qui peuvent éclore malgré dans les décombres en fait, et qui donnent quand même l'envie de vivre. Et pourtant je dis ça alors que je suis vraiment pas quelqu'un qui a fondamentalement. Merci. Fondamentalement envie de vivre plus que ça, mais je suis persuadée quand même que j'arriverai à transmettre à des plus jeunes, à des enfants, à potentiellement mes enfants, de quoi survivre et de quoi avoir envie de vivre quand même malgré tout quoi. Et ouais.
C'est avec une pote on en parlait du fait que on devrait pas se retenir de faire des enfants parce que on a peur de tout ça, parce qu'en fait la plupart des personnes 6-7 se posent pas ces questions-là et vont pas ce truc-là. Et qu'en fait, faire nous des enfants, c'est aussi aider à construire un monde meilleur pour plus tard. Et oui. même si ça ferait reposer un certain poids sur les enfants en soi, bah, c'est aussi parier sur le fait que bah, parce que nous aussi on va arriver à vivre comme on l'entend et parce que on ne se sera rien interdit qu'en fait on arrivera à faire à ce que les choses se passent mieux plus tard.
Ouais. Pour moi, mais, c'est être cohérente avec le fait que je dis que en gros on n'arrivera pas à changer la vie des gens qui sont homophobes et transphobes en face de nous. Les gens qui sont convaincus, ils vont pas changer d'avis, quoi. Ces gens-là, il faut juste attendre la fin de leur espérance de vie et compter sur la génération suivante. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut travailler activement à faire les générations suivantes. Et c'est soit les faire, soit les fabriquer comme Séraphin et moi, soit aller former comme ce que fait Mika. Enfin, c'est participer vraiment à leur à leur éducation, quoi.
Oui, ouais. Mais en fait, tu vois, tout ça, c'est quelque chose que, enfin, je veux dire, j'éduque mes enfants, j'essaye de leur donner le maximum de, bah, de faire une vision la plus large possible de ce que peut être une personne et de comment on peut l'accueillir. Enfin, c'est pas là-dessus que ça se pose. Et je pense que c'est peut-être une question de vision fondamentale de la vie, mais j'ai vraiment pris conscience à la naissance de mon premier enfant. Et pourtant, j'étais pas encore, moi, dans mes propres questionnements, je me positionnais pas ouvertement comme une personne queer à cette époque-là. J'ai pris conscience que c'est peut-être pour la première fois que j'avais vraiment peur. Pourtant, j'avais eu plein de peurs avant. Et celle-là, elle était pire encore parce que tout à coup, il y avait un tout petit bonhomme là qui dépendait de moi. Et en fait, ce truc-là ne s'est jamais atténué. Et je peux pas. En fait, ma seule réponse que j'ai, c'est effectivement de faire mon taf de parent, de faire mon taf d'éducatrice, de transmettre tout ce que je peux transmettre. Et voilà, et d'être positive avec eux et de les encourager, etc. Mais cette peur-là, elle est à moi. Hein. Je veux dire, je ne veux pas la communiquer aux autres. Mais je ne peux pas l'éteindre. Je ne peux pas la raisonner. Et je pense qu'elle m'accompagnera jusqu'à ce que je finisse par prendre mon dernier souffle. Voilà. Et c'est bête, mais ça...
C'est toute la dualité qui est exprimée par la chanson. Parce que genre, bah, le refrain, c'est grandiose la vie que j'avais inventée pour toi. Et une vie comme ça n'existe pas. Et c'est le truc de... Enfin, du coup, tout le truc, c'est j'imagine un futur dans lequel mon enfant serait le plus épanoui possible, mais je sais que genre il y aura des difficultés à faire et que ça n'empêche pas de vouloir le faire quand même. Tu vois, enfin, c'est un peu tout un truc de jongler entre ces peurs-là et le désir d'avoir des enfants. Mmh. Et ouais.
C'est je trouve que c'est la peur que Mika décrit est saine dans le sens, enfin elle est saine, je sais pas, elle est logique,
elle est rationnelle, elle est hyper rationnelle.
Ouais,
c'est très très concrète en fait.
Mais si t'avais pas peur pour tes enfants, je serais un peu inquiète. En fait. J'avais vu cette citation et je sais plus de qui elle est et c'est un peu devenu un marronnier, mais qu'avoir des enfants, c'est avoir son propre cœur qui court partout à l'extérieur de soi. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'extrêmement... Il y a ta propre vulnérabilité qui est externalisée, en fait. Il peut arriver des choses à tes enfants et ça va t'arriver à toi. Et oui... Enfin, moi, j'ai eu l'opportunité de découvrir ça petit à petit, c'est-à-dire d'abord dans un rôle... coparental avant d'avoir mon enfant et ça fait peur, mais le point positif c'est ce dont parlait Séraphin, qui est les bulles de joie. C'est que mon enfant qui vient d'avoir un an et il commence à avoir une personnalité, il commence à exprimer des choses, et ce que je vois dans ses yeux, c'est de la joie, du bonheur, sans aucun édulcorant. Et pouvoir à la fois être la cause de ça et la bénéficiaire de ça, de manière pas seulement égoïste, parce que justement c'est quelque chose qui est partagé avec ma co-maman, avec Po, avec mes partenaires, avec nos partenaires. C'est un peu magique, quoi. Et pour reprendre en d'autres termes ce qu'a dit Séraphin, qui disait j'ai pas particulièrement d'enthousiasme à vivre. Pour prolonger ça, et je suis désolée, on était normalement feel good, mais je crois que cet épisode il est un peu particulier. Moi j'étais très clairement suicidaire il y a un an. Le fait d'accepter d'attendre que mon fils naisse a fait que je suis en vie et qu'il est plus question pour moi de changer ça. Parce que j'ai cette responsabilité là. Et parce que c'est plus seulement un petit amas de cellules. Maintenant, il répond à son nom, quoi.
un petit amas de cellules conscient.
Mais ouais, d'un point de vue cognitif, il a dépassé la plupart des animaux de compagnie. Donc, on s'attache.
Mais deux choses par rapport à ce que tu disais aussi, c'est... Enfin, je trouve aussi que c'est tellement des parcours plus longs et plus compliqués pour les personnes queer de devenir parents. Et c'est un truc qu'il faut vraiment le vouloir, et du coup je pense qu'on a quand même moins de chances de merder que la moyenne des personnes 6-7 qui genre juste ça leur tombe dessus pour beaucoup, et sans dire que genre c'est parce que genre on est des parents queer qu'on va forcément bien faire, enfin tu vois genre c'est, ça peut arriver,
mais
c'est
un truc
voilà c'est ça, et puis tout peut arriver quoi. Mais genre c'est tellement un parcours du combattant de pouvoir faire des enfants, et donc déjà quand t'es genre gay ou lesbienne, mais aussi maintenant quand t'es trans, parce qu'on va le rappeler que le gouvernement a officiellement dit que les mecs trans étaient exclus de l'accès à la PMA. C'est des trucs qui font que en fait
les meufs trans aussi hein.
Oui, les meufs trans aussi, oui.
De l'utilisation de leur gamète au sein du couple, on est obligé de faire des PMA avec donneur.
Ouais, mais je crois qu'il y a aussi le truc... Attends, j'ai peur d'une bêtise. Mais si jamais t'as fait ton changement d'état civil et que t'es un mec trans en couple avec une meuf, t'as pas accès à la PMA.
Tout à fait.
Ni pour ta meuf, ni pour toi, même si t'as gardé tes... Même si t'as gardé
Non, si tu as fait ton changement d'état civil et que donc tu es dans un couple hétéro... avec une meuf 6, cette personne peut complètement accéder à la PMA, il n'y a pas de problème.
Ok. Mais du coup, toi, tu peux pas porter l'enfant, par contre. Toi, tu peux pas avoir accès à la PMA.
Non. Parce que t'es un homme, et la société est bien rangée.
Après, tu peux faire à la sauvage. Il y a un zine qui s'appelle C'est quoi ce sauvage, et il y a des moyens pour faire plus ou moins
on est
DIY, quoi.
Genre, je connais des potes qui se sont déjà arrangés, genre de couples lesbiennes et de couples gays, et même genre de couples lesbiennes qui s'arrangent avec des meufs trans qui n'ont pas fait leur kidectomie, enfin, ou de trucs comme ça, ou enfin, tu vois, qui, ou du coup, ça se, enfin, le DIY. Et enfin, la raison pour laquelle je fais pas d'hystérectomie, c'est que genre je suis pas sûr de ne pas vouloir d'enfant, donc hein, et que je veux pas que ma capacité à en avoir soit dépendante d'un tierce d'une institution, quoi.
Bien sûr.
Mais ouais. Et l'autre truc que ça me fait penser à ce que tu disais, Gina, c'est que moi, un des trucs qui me fait flipper par rapport à ça, c'est que j'ai pas un cerveau qui fonctionne très bien, on va pas se mentir. Et genre, si c'est héréditaire, j'ai pas. Enfin, tu vois. Il y a un peu ce truc de... Et encore une fois, on en a parlé avec une pote qui disait... Enfin, genre, bah ouais, mais en fait, c'est hyper eugéniste comme réflexion que t'as. Oui. Je disais... Et du coup, tu te recheckes avec toi-même et t'es en mode... Ouais, certes, mais...
Et encore une fois, les cis hétéros, ils se posent pas la question.
Oui.
Et le truc qui nous arrivera jamais, pour prolonger ce que tu disais, c'est on n'aura jamais d'enfant par hasard. Ou par erreur. Et savoir que mes parents m'ont eu par erreur... Et que une des conséquences de ça, c'est que ma mère m'aime pas, quoi. Bon, encore moins après coming out. Hein. Mais si au moins on peut faire des enfants heureux, même s'ils ont des problèmes de santé mentale, on en a aussi, on va pouvoir en discuter, quoi.
Ouais, moi c'était exactement ça dans l'état d'esprit dans lequel j'étais avant. Au point où j'étais là, je veux avoir des enfants, etc. Mais je veux pas me reproduire moi parce que je mérite pas de me reproduire. Et parce que je t'avoue, j'ai trop de problèmes, que ce soit de santé physique, mentale, etc., qui risquent d'être héréditaires. Et du coup, ça vaut pas la peine de mettre cette charge supplémentaire sur le gamin. Mmh. Et c'était horrible. Et, et vraiment, j'ai sorti un repas de famille où un de mes ex était là. Et j'étais là, mais en fait, on mérite pas d'avoir... Enfin, je l'ai pas sorti tel quel, mais l'idée que j'ai transférée à un repas de famille, c'est... Ah, mais nous deux, non, faut pas qu'on ait des enfants, quoi. Et ça m'a pris énormément de temps de sortir de cet état d'esprit-là, et c'est seulement parce que je me suis rendu compte que même si on a des difficultés qui paraissent... Enfin, pour moi, c'est parce que, en fait, même si on a des soucis de santé mentale, etc., les principales barrières, elles sont posées par l'extérieur. Et du coup, en fait, c'est beaucoup des changements, en fait, sociétaux, qui... et c'est pour ça que je me bats aussi pour, de manière générale, changer la société sur plein d'aspects. Parce qu'en fait, n'importe qui, avec n'importe quel truc identifié comme problème, en fait, tourner le problème... Je sais pas du tout clair ce que je suis en train de dire. Mais en gros, le souci n'est pas dans l'individu. Oui. Peu importe ce avec quoi il naît. Et aussi, moi, je sais que quelque chose qui me faisait énormément peur, c'était d'être que deux parents. Et enfin, moi, je sais que si je suis amenée plus tard à être parent, on sera pas que deux. Enfin, pour moi, ça me paraît inenvisageable, en fait, d'élever un gamin qu'à deux. Je trouve ça beaucoup trop petit et la charge de travail beaucoup trop grande, quoi.
Oui. C'est une des conditions qui ont fait que pour moi c'était possible. Je dois être plus optimiste que je ne le pense, mais je suis en général politiquement plus optimiste. Mais le fait d'avoir un certain nombre de bagages, ma co-maman et moi, des allergies, des intolérances alimentaires, des problèmes physiques, des problèmes mentaux, et en plaisanter en disant ce môme, si on arrive à le faire, il va partir avec de sacrés bagages, quoi, mais il sera là quand même. Et voilà, mais ça nous faisait bien rire, quoi. Le pauvre, le patrimoine génétique qui se gaufre, quoi. Mais c'était chouette d'en rire ensemble aussi, finalement. Ça a fait partie du processus.
Mais il y a aussi ce truc sur, je pense que sur le fait d'être à plusieurs, et que sur ça, je dis aussi que, enfin, je pense qu'on. On est capable de faire des enfants peut-être qui vont être mieux armés ou qui on a moins de chances de faire de la merde, c'est que de répartir la charge sur plus de deux personnes, ça fait que tu fatigues moins aussi, je pense. Et en fait, quand je vois les gens de ma famille qui ont des enfants et qui sont en couple et qui genre sont juste à deux et qui des fois ont pas beaucoup de patience et qui du coup ça fait que forcément à un moment donné tu craques parce que quand ça fait plusieurs mois que tu dors pas parce que quand ça fait un an et quelques que tu dors pas des nuits complètes parce que ton gamin il fait toujours pas, ou ta gamine fait toujours pas ses nuits, tu peux comprendre d'où ça vient, tu vois. Alors que si t'es plusieurs, et vu que dans les communautés, chez les personnes queer, on a tendance à beaucoup fonctionner en communauté, enfin il y a beaucoup plus ce truc de pouvoir avoir du soutien et faire élever un enfant par plus de deux personnes, je trouve ça vachement plus sain. Oui. Aussi, en termes de la charge que ça représente.
Et puis, ne cachons pas que les couples hétéros qui élèvent des enfants juste à deux, souvent, c'est juste madame qui élève.
Mais même dans des couples qui ont moins ce problème-là de charge mentale, enfin, qui y est, mais qui est dans le moins d'une mesure, vraiment, même ça, même pour des couples qui ont moins ça dans mon entourage, je trouve ça chaud, juste à deux, quoi.
Moi, je vous entends parler de ça et je me dis, ok, t'es une semaine sur deux, t'es seule avec les deux.
Mais alors.
Je rebondis.
Mais déjà, il y a un vrai partage.
Parce que évidemment, j'aime toujours rappeler que, en fait, mon démarrage, il est au sein d'un couple pseudo-hétéro. Mais c'est comme ça que ça. Enfin, je veux dire, quand tout ce que vous venez d'évoquer sur les parentalités queer, c'est pas mon point de départ. Mon point de départ, c'est me marier avec sous une identité masculine, me marier avec avec une femme et puis vouloir un enfant une fois. Enfin, nous, on avait vraiment fait tout, tu sais, toutes les étapes de d'escalator dans l'ordre. On s'était mariés et à partir du moment où on était mariés, on avait acheté une voiture pour avoir des enfants et ensuite on s'est dit on va avoir des enfants. Voilà, tu vois un peu le schéma quand même.
La vie qu'on nous vend bien tracée pour
la vie qu'on nous vend bien tracée. Non, mais quand je dis que j'écoute 3-4 fois cette chanson par jour en ce moment, c'est vraiment pas un mensonge et c'est pas innocent non plus. Et du coup, de ce moment-là jusqu'à ce qu'on ait notre premier enfant, il s'est écoulé quasiment 6 ans. Et moi, à ce moment-là, la peur que j'ai, c'est de pas en avoir. C'est pas d'en avoir. Tu vois un peu la bascule entre il y a une grosse décennie où ma hantise, c'est de voir qu'autour de moi, mes amis ont des enfants, ont un enfant, et que nous, ça vient pas. Et que nous, ça vient pas, et que du coup, faut se poser la question de pourquoi ça vient pas à un moment, parce que j'ai un souvenir très dur d'un couple d'amis qui nous annonce qu'ils vont être parents. Et moi, il y a vraiment un truc qui m'alimente toujours, la capacité de me réjouir pour les autres. Et dans plein de moments de ma vie, c'est comme ça. Et ce jour-là, j'ai pas réussi. C'est-à-dire que les amis, on était en visio avec eux, ils étaient en France, on était en Espagne, ils nous disent ça, ils nous annoncent que c'est des jumeaux. Et moi, j'ai envie de pleurer. Mmh. Et je balbutie un truc, enfin, tu vois, je leur dis une banalité. On coupe la visio, on se regarde avec ma compagne de l'époque, et en fait, on est dépité. Et en même temps, je m'en veux, j'ai une colère horrible vis-à-vis de moi-même de me dire, mais tu peux pas, en fait, ils sont pas responsables. Et puis, tu vois, un enfant, un deuxième enfant qui, en plus, arrive dans la période où je suis en transition. Et donc, c'est là, par contre, il y a une volonté de, OK, on va vers une forme de relation, on ne sait pas trop comment ça va être. Moi, je vais vers une transition, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on veut ce deuxième enfant. Et là, il y a déjà un truc un peu plus... Enfin, j'ai le sentiment de m'être plus approprié. C'est-à-dire, autant le désir d'enfant, je sais qu'il est là depuis longtemps, autant là, celui-là, c'est quand même très, très, très particulier. Et en même temps, ce que je dis il y a 15-20 minutes quand on enregistre, c'est ouais, j'ai peur pour eux. Tu vois le décalage entre les deux et aujourd'hui j'ai d'autant plus peur pour eux que aujourd'hui je suis une maman queer de petits hauts qui sont scolarisés dans un patelin. Enfin voilà quoi, je veux dire, on est à la campagne, donc forcément il y a des questions de mais attends, pourquoi il y a deux mamans, en plus on est séparés, en plus. Et même s'ils connaissent leur histoire, ils se la sont appropriées, les cartes, elles ont été totalement rebattues. Et j'ai pas eu cette possibilité de faire un projet de parentalité queer au départ. Ça n'a pas été pensé comme ça. Et parfois, c'est compliqué de se le réapproprier un peu ou de dire, attends, dans quel sens j'oriente le truc pour... voilà. Et au-delà de l'éducation, je sais pas si c'est possible de faire autre chose, en fait, que simplement de montrer à mes enfants la diversité des gens, du monde. Voilà. Mais c'était pas pensé comme ça au départ, du tout.
C'est d'autant plus beau, je trouve. Oui, c'est chouette. Enfin, ça a permis quelque chose. Je suis très contente que t'aies parlé de cette chanson. Et enfin, finalement, on a parler beaucoup plus de nous que de cette chanson, mais la chanson elle-même, je me souviens l'avoir entendue pour la première fois pendant les débats de la loi de bioéthique, et c'était brutal de se projeter dans cette chanson, d'entendre les lesbiennes cis se réjouir sans nous, et finalement se dire que cette chanson elle fonctionne encore complètement pour moi et pour les meufs trans qui pour moi non plus, j'ai pas le droit. Et moi aussi, je veux un enfant dans le ventre. Et c'était d'autant plus poignant. Et c'est une histoire, c'est une chanson qui aura toujours cet écho-là pour moi. Et ça, le timing est chouette. J'ai une nouvelle amoureuse depuis quelques jours qui. De manière assez intéressante pour moi, me connaissait pas avant, Et c'est un peu.
Je suis en mode. Genre, mais c'est bizarre, genre, je suis connue pourtant.
Mais non, mais c'est. Bah, écoute, ouf, ouais. ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. C'est oui, vraiment.
Je te charrie.
Mais non, mais voilà. Bref. Non, mais enfin, pour moi aussi, c'est bizarre à dire. Je veux reconnaître. Mais. Et du coup, une vidéo comme Data Girl, qui a été vue par genre la moitié de. Enfin, par beaucoup de monde. J'ai pas vu, pas entendu parler, donc je vais montrer le petit bout de vidéo dans lequel on. L'interview que j'ai faite pour Data Girl. On mettra le lien dans les notes de l'épisode.
Je savais pas que t'avais fait une vidéo pour Data Girl.
Moi non plus.
Bon, très bien, bon, on a encore des trucs à découvrir. Donc,
là, ça ne s'arrête jamais. Tu sais, tu découvres des trucs sur elle, genre tous les jours.
Bon, bah alors attends, je vais faire le pitch différemment. Alors. Quand Data Girl a fêté son numéro 100, ils ont dit qu'ils voulaient un épisode spécial sur la PMA et particulièrement, enfin l'ouverture de la PMA. Et pour ça, ils ont fait un épisode un peu plus long que d'habitude, avec une dizaine de minutes d'infographie qui est accurate pour l'époque. Et puis ensuite, il y a 10 minutes, un quart d'heure d'interview avec moi. Et c'est des très très belles images. Genre, c'est vraiment les ça a été ma photo de profil pendant très longtemps parce que la façon dont il m'avait arrangé pour cet enregistrement était fabuleux, quoi. Et j'ai rencontré une équipe de journalistes qui étaient particulièrement à l'écoute, qui étaient a priori tous 6, mais extrêmement bienveillants. Et il y avait un truc complètement surréel d'être dans cette cave parce que c'était enregistré dans une cave pour des raisons de sonorité et d'obscurité, d'être entouré de j'ai bien 6 ou 7 journalistes assis en arc de cercle autour de moi, et au centre du cercle il y avait ma chaise et un verre d'eau et plusieurs caméras et voilà, donc il y avait un côté un peu tribunal souterrain et voilà, cet entretien,
c'est la cour des hiboux.
Quoi?
J'ai fait une référence à Batman, laisse tomber, c'est pas grave.
Ok. Et voilà, donc cet entretien, il est vachement émouvant, et le souvenir que j'en ai est très intense, parce que c'était pendant les discussions de la loi de bioéthique, avant qu'elle soit votée, et je crois. Et l'entretien, il s'est assez bien passé pour que je me livre complètement. Il a été tourné à un moment donné où j'avais pas encore conclu l'accord avec ma co-maman pour faire un enfant. Donc pour moi, j'étais sûre que je ferais jamais d'enfant. Et donc c'était sensible, quoi. J'étais en larmes à la fin de l'entretien, et ça se voit sur le truc. Donc voilà. Donc je lui ai montré ce truc-là, et j'avais pas vu ces images depuis très longtemps. Et c'était pomme, enfin c'était grandiose, c'était cette musique-là qui était dans ma tête à la fin, quoi. Parce que c'était ça. C'était exactement mon état d'esprit de l'époque. Bon, j'ai fait ma promo pour une vidéo d'il y a 2 ans qui était enregistrée entre 2 confinements en 2020.
Oh, wow. Excellent. Incroyable.
Ouais, c'est drôle parce que
j'ai eu... Ah oui, t'as raison, c'était il y a plus de 3 ans. Ouais.
J'ai eu des conversations il y a peu de temps avec, pour le coup, une maman lesbienne qui a décidé d'avoir un enfant toute seule, et donc il l'a fait, et voilà, et donc je la connais, je connais sa fille, voilà, je ne vais pas en parler plus pour pas l'identifier plus que ça, mais il y a ce côté je trouve ça très poignant, les personnes qui arrivent et qui disent en fait moi j'ai décidé que ok, ça va être compliqué, ça va être quasiment impossible, mais en fait, je crois que je peux, je crois que j'ai des ressources, alors je vais y aller, et puis, advienne que pourra, mais là, maintenant, mon projet, mon truc, même si tout le monde me dit que, en fait, c'est pas une bonne idée, que ça va être compliqué, tout ça, bah, j'y vais quand même. Ouais. Et cette personne, sa chanson de référence, c'est grandiose de pomme, tu vois. Et voilà, et quand on en parle, c'est l'évidence, le premier morceau, le premier titre qui sort, c'est ça, et elle l'associe évidemment à son histoire de maternité. Au final, encore une fois, peut-être que cette chanson, on l'a pas plus étudié que ça dans les détails, dans les paroles, il y a eu 2-3 échos et tout. Oui. Mais finalement, pour toutes les personnes qui en ont parlé là, je crois qu'elle elle a touché quelque chose.
Oui.
Et certainement pas que pour nous.
Oui. Mais c'est bête, mais le fait qu'il y ait des cloches d'église me parle dedans, parce que j'ai fait un collège privé catholique. Et ça a aidé à me projeter dans cette chanson.
Je pense soit un village où elle a grandi, soit un truc comme ça, parce qu'elle fait référence à genre une église et des cloches dans le dernier.
Oui, l'église de Font-Rose. Oui, non. Je pense que je connais des paroles par cœur.
Ça peut être beaucoup d'églises en région toulousaine.
Oui. Mais un truc qui me fait penser aussi, c'est que c'est ouf la différence que j'ai vue entre de réaction entre pré-transition, mais genre j'étais jeune, genre dès mes 16 ans, ou genre quand je disais que je voulais pas d'enfant, les gens me regardaient en mode ah, tu vas changer d'avis, tout ça, machin. Et que là, dès que t'es une personne queer, dès que tu dis que tu veux. Enfin, c'est l'inverse.
Ouais.
Enfin, il y a vraiment ce. Et du coup, tu le vois le double standard. Enfin, le double discours, le double standard. Et t'es là, t'es en mode.
Et Louis, enfin, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu alors que cet enfant était en route.
Oui.
Je l'ai littéralement vécu avec un décalage. Je vais pas citer les personnes parce que ça aurait pas d'intérêt. J'ai pas envie de jeter de cailloux à qui que ce soit, combien même il les mérite. Mais j'ai vécu la pression de certaines personnes pour avoir un enfant quand on n'en avait pas.
Oui.
Et une pression pas légère, hein, du tout. Qui nous a encouragés à partir dans un autre pays, c'est quand même pas mal à l'époque, et à l'annonce du fait qu'on attendait un deuxième enfant, alors que ma transition avait été annoncée deux, trois mois plus tôt, des réactions de « Ah merde !» tu vois. Et ça, je l'ai vécu, et je peux t'assurer que ça m'a touché. Je préfère préciser que c'est pas mes parents, parce que voilà...
Ouais.
Eux, ils ont été super chouettes de ce côté-là. Mais vraiment, à voir dans le regard des gens, enfin, je veux dire, t'annonces une grossesse, quoi. Et là, tout à coup, les gens, oh, ils sont choqués, ils sont pas heureux, alors que...
Ouais. Et moi, ça... Pardon, vas-y.
À l'époque, ça... Avec tout le côté très optimiste, très... Je veux que ça se passe bien. Je veux que finalement ces personnes finissent par comprendre qui je suis, comprendre ma démarche de transition, etc. Je veux dire, j'ai essayé de garder ça là-dedans. Et en fait, c'était un indicateur tellement clair que c'était mort, ça les dépassait, ça les a toujours dépassés, ça les dépassera toujours. Mmh. Avec le recul, en fait, j'ai beaucoup d'amertume là-dessus, même si c'est des personnes avec qui j'ai plus de relations aujourd'hui. Mais j'ai quand même beaucoup d'amertume parce que ça ne touchait pas que moi. Ça touchait aussi mon ex-compagne et ça touchait forcément cet enfant à venir, tu vois.
Et celui des
jeunes. C'est légitime comme amertume.
Moi, il y a un truc qui m'énerve à chaque fois qu'on parle particulièrement de mecs trans qui ont eu des enfants. C'est dans les commentaires toujours le même type de connard pseudo bien intentionné qui essaye de retourner la transidentité contre nous en disant mais je ne comprends pas, cette personne voulait être un homme, pourquoi tient-elle absolument à exprimer sa féminité de cette façon. Et j'ai vraiment envie de les claquer parce que mais de quoi je me mêle en fait, c'est comment est-ce que vous pouvez imaginer manifestement de rien comprendre à ce que c'est le principe même de féminité, mais de concept. Le concept de concept leur échappe. Et particulièrement celui de la transidentité. Et en plus, enfin, soi-disant essayer de se mettre à la place des personnes concernées, quoi. Et c'est insupportable. Encore une fois, on a dit, on est un podcast feel good, etc., mais là, j'ai envie de mettre des claques.
Des claques méritées.
Ouais, il n'y avait eu que des moments feel good, mais je crois que des fois c'est important en fait aussi parce que on est quand même avant tout un podcast où on a cette conversation d'épisode en épisode, et puis ben, des fois on a des conversations sur des choses qui, qui nous travaillent, qui nous font peur, qui nous ont heurté, qui... et c'est bien aussi en fait de...
Oui, tout à fait.
Si on était qu'un podcast feel good, on serait une espèce de, d'émission inspirante, là, des machins qui... enfin, bon, voilà, on... et on aurait un sujet sur le yoga, du rire et des trucs comme ça. Et...
ah, c'est ça, on ferait seulement genre le dimanche après-midi sur les services publics.
Exactement.
Mais, on peut être positif et rester réaliste sur, sur les conditions dans lesquelles on est, en fait.
Oui.
Enfin, moi, je trouve qu'on a dit des trucs vachement positifs aussi sur...
aussi.
Enfin... c'est le encore une fois enfin genre attends j'allais il y a cette phrase à la fin de Mulan que l'empereur dit à vous allez voir il y a un rapport que l'empereur dit à
Ping
non à le à au mec de Ping du coup à
John
Putain, pourquoi je sais plus ? Qu'est-ce qui se passe dans ma... Alors, je... pourquoi mon cerveau marche pas ? Ça m'énerve, ça m'arrive de plus en plus. J'ai des trous sur des trucs que je sais.
Bienvenue dans mon cerveau.
Chang, putain. Oh, waouh, il est re... je l'ai sorti de loin. Bref, mais du coup, donc Mulan se casse et l'empereur dit à Chang un truc du genre la fleur la plus belle est celle qui s'épanouit dans l'adversité pour lui dire genre en gros bah va la pécho ta meuf genre elle est géniale. Et, globalement, mais du coup le truc de genre de cette métaphore là, c'est juste pour me dire de comme on est des personnes qui avons des parcours qui sont sur lesquels on a beaucoup d'obstacles, ça fait que je pense ça fait des personnes qui souvent vont chercher de l'espoir un peu partout où on a, ils sont capables d'en créer et sont aussi capables du coup d'avoir de transmettre de l'espoir et de créer des choses vachement belles contrairement à des personnes qui n'auraient pas traversé tout ça. Voilà.
Ben c'est que... le côté tu vois quand on disait c'est pas un podcast feel good, c'est pas, je crois qu'en fait c'est surtout qu'on est très honnête sur nos émotions au fil de ce qu'on dit,
oui.
et ça je crois que c'est peut-être ce que j'apprécie le plus du fait c'est que on ne masque jamais nos émotions de ce côté-là, on est très honnête, et si voilà, et même s'il y avait un super écho tout positif et tout, et ben en fait tout à l'heure j'ai dit que j'étais désolée d'arriver avec un truc un peu plombant, mais en fait non, je suis pas désolée, c'est juste que moi ça m'a inspiré à ce moment-là.
Oui.
Voilà, des os, pas des os.
Même les sujets très énervants qu'on a partagés aujourd'hui, ce sont toutes de très bonnes raisons de nous battre. Et rien que pour ça, c'est positif quand même, en fait.
Je sais que moi, que depuis que j'ai trouvé des raisons politiques à vivre, on va dire ça comme ça, je ressens tellement plus de joie dans les petits trucs.
Ouais.
Et genre pour reboucler sur la Baudrillère, un des trucs qui m'a mis le plus en joie, c'est quand je mettais peu de maquillage avant de ma transition. J'en mets toujours très peu. Mais à la Baudrillère, il y a un mec trans qui fait des maquillages magnifiques. Et genre je lui ai demandé une fois de me mettre des paillettes sur la gueule et j'ai adoré ça et j'étais tellement en joie après et ça m'a fait tellement plaisir, et alors que c'est un truc qui paraît presque anodin pour plein de personnes, notamment queer à paillettes qui adore mettre des paillettes tout le temps, mais et genre je trouve que juste la possibilité de faire ça et que ce soit fait par un adelphe et tout, ça m'émeut toujours énormément en positif. Et genre, il y a plein de trucs comme ça où tous les jours, je me dis, j'ai tellement de la chance de vivre tel ou tel petit truc. Et c'est trop chouette, quoi, la vie. Même si c'est trop difficile et que 99% du temps, je me dis que ce serait peut-être chouette de pas la vivre. Mais j'essaye quand même de m'accrocher au 1% qui valent la peine, quoi. Ça va ?
Oui, mais j'attendais la fin de ta phrase parce qu'on n'a qu'un seul micro.
Si je peux me permettre d'ailleurs de faire de la connexion avec un truc qu'on a dit tout au début, quand j'ai dit oui, en fait c'est Mike et pas Mika, vous avez mal entendu, donc c'est vrai que je me suis pas trop expliquée là-dessus. Mika non, ne devient pas une sorte de dead name, c'est un prénom qui reste valable pour un certain nombre de personnes, et c'est pas mal en fait finalement d'avoir des identités qui dépendent un peu du groupe social dans lequel tu évolues. Mais c'est vrai que c'est plus, enfin ce prénom est un prénom vraiment choisi, contrairement à Mika qui finalement était un prénom qui était une forme de compromis pour les personnes que j'ai pu citer tout à l'heure, pour essayer de les garder connectés à quelque chose qu'ils connaissaient, qui était assez proche de mon ancien prénom, que je n'utilise lui plus du tout pour le coup, qui est mon vrai dead name. Et je crois que ces derniers temps, j'ai vraiment eu besoin de m'en distancier complètement, dans mon entourage queer, dans mon entourage, qu'on parlait de famille choisie il y a deux épisodes, c'est un peu ça en fait. Et je suis très contente que mes parents m'appellent toujours Mika parce que pour eux ça a du sens et je veux bien leur laisser ça, il n'y a pas de souci, ils le méritent clairement, mais je suis contente que mes adelfes, je suis contente que les personnes qui sont proches de moi utilisent Mike qui en fait n'est pas du tout associé en termes de racines à mon ancien prénom. Voilà. Comme ça, c'est... Voilà, on ne s'est pas concerté, mais la boucle est bouclée.
Ouais, c'est bien. Okay. Je comprends complètement l'idée d'avoir trouvé un prénom très rapidement, en début de transition. Et puis, arriver en cours ou en fin de transition, si on ne peut jamais finir une transition, et se dire que finalement, les plus gros changements ont eu lieu après le choix du prénom. Et que peut-être on a besoin d'être appelé autrement. J'ai une citation pour vous, et c'est elle m'est venue là pendant qu'on discutait de ce choix de prénom. Je me suis rendu compte que dans la pièce Cyrano de Bergerac, le personnage de Roxane avait un autre prénom quand elle était petite, et que Cyrano n'a aucun scrupule à deadnamer Roxane. Et donc je voulais vous faire cet échange en corrigeant Cyrano. Et la citation c'est: mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc, près du lac. Et Cyrano répond: vous veniez tous les étés à Bergerac. Roxane, en jupon court, s'appelait Deadenheim. J'étais jolie alors? Vous n'étiez pas vilaine. Voilà. Ça tombait bien.
Ça fait bientôt 2 heures qu'on enregistre. Oui.
Je pense raisonnable de dire qu'on va s'arrêter à 2 sujets pour ce soir.
Oui.
Et encore une fois qu'on a eu des échanges qui étaient tellement riches et que c'est pas du tout un regret de s'arrêter là.
Ouais,
mais ça nous laisse sur notre fin de curiosité. Il me tarde le prochain épisode pour savoir.
Vraiment, on a le teasing entre genre le sujet de Jenna et le sujet que Charlie était censé faire aussi et qui n'a pas pu venir faire. Voilà.
Mais donc, c'est un teasing qui est juste entre nous. On n'a même pas teasé ça à l'antenne. Je trouve ça chouette. On pourrait bluffer et dire qu'on a des sujets fantastiques en réserve.
Mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai en plus.
Mais les gens le savent, ils se rendent bien compte qu'on a que des sujets fantastiques.
Et du coup, pour ça, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, sur toutes les autres plateformes que vous pourriez utiliser que je n'ai pas en tête. C'est les deux principales.
Il y a Google Podcast pour 2%. Google Podcast.
N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles là où vous pouvez. Vous pouvez nous retrouver sur le Instagram, sur le Blue Sky, sur... Et c'est...
Mastodon ?
Non.
Et le Mastodon.
Sur Mastodon, c'est vachement et important. Sur Mastodon, et sur nre.fm, où on a en fait tous nos liens. Ça, c'est peut-être l'endroit où vous pouvez trouver tout centralisé. Il faut aller sur nre.fm. On a notre Linktree avec absolument tous les endroits où on se trouve, tous les réseaux où on est, tous les liens vers tous les podcasts et tous les autres podcasts, effectivement. On a
ouais,
nos voix trans.
Il y a Polycule qui vient de sortir un deuxième épisode avec Pau. Et c'est un petit peu fabuleux d'entendre Pau se livrer un peu.
J'ai pas eu la notification.
J'ai pas eu la notif non plus.
Alors, je vais le laisser couler comme ça, mais il sera sorti quand cet épisode sortira.
J'ai vraiment sorti. Vous avez pas eu le visuel, mais j'ai vraiment sorti mon téléphone, j'ai sorti mon podcast, j'étais en mode, mais je le vois pas.
Enfin, j'ai vu le visuel en tout cas avec Pau, j'ai pas cliqué dessus.
Alors, c'est marrant parce que moi j'ai pas vu le visuel, mais je l'ai entendu juste parce que on a eu l'avant-première, la validation. Mais et puis là, normalement, dans les 10 jours qui viennent, si tout va bien, quand notre podcast là sort, l'épisode de Nova Trans avec le réalisateur de 24 heures à New York sera sorti. Et j'ai trouvé cet entretien fabuleux. Et pour continuer à teaser, il y aura un autre épisode qui devrait sortir. Si j'arrive à le faire avant la fin du mois, je serai vraiment contente de faire deux épisodes aussi rapidement. Mais c'est un épisode avec la musicienne Jangeline. Et voilà, il est fabuleux aussi. En toute modestie, je suis vraiment très contente de ces échanges. Bref, nre.fr pour tous ces liens-là. C'est tellement chouette.
Les nouvelles radios euphoriques, on est. Voilà, c'est trop bien. Venez.
On s'arrête là.
Allez.
On vous
bye.
Dit au revoir. Bye, bisous.
Bye.
Voilà, longue vie et prospérité.
Est-ce qu'on peut enlever les écouteurs du coup?
J'ai trouvé ça tellement drôle de croiser Changeline du coup au resto et que genre après.
Ah oui, vas-y, tu peux.
Et que après genre m'envoie un message en mode ah oh, du coup elle va faire un podcast, elle va faire un podcast avec Jedi, j'étais en mode quoi. Trop drôle. Mais parce que du coup c'est genre quelqu'un de proche, de quelqu'un qui est très proche de moi. Okay. Et du coup que je la connaissais que par son prénom, enfin tu vois genre, et j'avais jamais entendu parler de son nom de scène en fait, et du coup c'est pour ça j'ai à aucun moment j'ai fait le rapprochement, et genre du coup c'est genre
c'est bizarre en fait. J'étais vraiment partie, tu sais, dans le ce dont on avait parlé à la réunion, on va enregistrer un podcast, on va rigoler autour du sujet de Charlie sur, et en fait putain, c'était lourd, quoi. Enfin, c'était lourd. C'était pas négativement, hein. Ouais. Mais c'était dense, en fait. Je suis en train de repasser un peu le fil, même des trucs que j'ai pu dire. Mais en fait, je pensais même pas parler de ça publiquement. Et ça veut pas dire que je regrette de l'avoir fait, hein. Mais je pensais pas que ça sortirait comme ça, en fait.
Ouais, je pense que je voudrais bien, enfin, je vais attendre de voir ce que ça donne à l'écoute, parce que genre, il y a des trucs où je suis pas sûr de moi non plus.
Breeding King. Okay. Mm.
Mm-hmm. C'est très drôle, j'ai rencontré que des meufs trans qui en avaient pour l'instant. Mais c'est peut-être parce que je relationne beaucoup avec des meufs trans aussi.
Moi, j'aime bien le truc transgressif de la meuf trans qui a un Breeding King. Parce que ça amène le côté... vas-y, si tu me baises assez fort, assez longtemps, tu vas finir par me faire tomber enceinte. Alors que, enfin, voilà quoi.
Ouais, tu es vraiment une meuf trans, pas comme les autres, parce que s'il y a bien un truc, mais un truc qui pour lequel en fait finalement j'étais très 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 satisfaite, c'était justement que ça ce soit pas possible pour moi. C'est bon, c'est pour quelqu'un d'autre.
Je pense que ça peut aller en post-générique, par exemple, tu vois, juste avec des bips.